marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La radiodiffusion française vous invite à écouter...
Le témoin de ce vendredi, Georgette Elgey, et la fin de la 4e République.
Nous allons vous donner le film de la journée d'hier à Alger.
Ce seront dans quelques instants les scènes classiques de furie destructrice, les bureaux mis à sac, les archives lancées par les fenêtres. Il est 19h30, une heure plus tard, c'était la constitution du comité de salut public et le télégramme comminatoire au président de la République.
13 mai 1958, le début de la fin de la 4e République. Un peu plus tard, en 1962, Georgette Elgey s'est attelée à l'histoire de ce temps politique qui alors était encore très présent. La 4e République ne datait que du lendemain de la Libération. Georgette Elgey avait mis au point une méthode qui alors n'était qu'à elle. Elle recueillait, avec un bel esprit de système, les témoignages des acteurs politiques contemporains, lesquels, sur sa bonne mine, lui confiaient souvent leurs archives. La règle n'avait pas encore été établie de la collecte par les archives nationales des papiers des cabinets ministériels. Beaucoup plus tard d'ailleurs, François Mitterrand, élu président, demandera à Georgette Elgey de réunir quotidiennement depuis l'Élysée les matériaux qui pourraient illustrer son règne. Elle fit alors le même constat amer que pendant l'élaboration de son histoire de la 4e République. Raconter une seule journée prend bien plus longtemps que de la vivre. À mesure qu'avançait la rédaction, les alluvions du fleuve débordaient. Le projet avait débuté en 1962. L'ultime volume consacré à De Gaulle, dernier président du Conseil de la 4e, parut en 2012. Quand Georgette Elgey renonçait à poursuivre le livre, c'était le livre qui la poursuivait. 50 ans pour une république de 13 ans. Mais l'éditeur, Fayard, qui avait acheté sur plan, ne fut pas déçu. Il se retrouvait devant une maison certes un peu monstrueuse et disparate, mais qui tenait bien davantage que ses promesses. Et en 2018, en ces jours anniversaires de la Constitution, de la 5e de la Constitution de 1958, voici que la collection bouquins chez Lafon prend le relais. Avec le secours de Mathieu Rey, Georgette Elgey propose une édition complètement restructurée en 2 volumes seulement, mais serrée.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Bonjour Georgette Elgey. Vous êtes né en 1950.
Parce naturellement, que vous êtes née... naturellement.
Naturellement, oui. Vous êtes né au journalisme en 1950. On ne va pas raconter votre enfance et votre adolescence, où vous marquez déjà vos qualités de franchise et d'intrépidité. Vous l'avez fait dans 2 livres. Le dernier, Toute fenêtre ouverte, est toujours disponible chez Fayard et est vraiment admirable. Oui, mais le journalisme quand même, c'est très important pour vous parce que votre but... C'est souvent de vous amuser, et le journalisme vous a amusé beaucoup.
Je me suis beaucoup amusé en faisant du journalisme. Je l'ai fait un peu par hasard. J'avais appris la sténotypie, et Jacques Richet, qui avait fondé avec Philippe Vianney le centre de formation des journalistes, me proposa des sténotypistes au CFJ, et me dit « tu pourras en même temps suivre les cours ». J'ai suivi les cours, je n'ai pas eu le diplôme, mais j'ai fait quelques piges à la revue La Nef, et finalement, c'est ainsi que j'ai fait du journalisme, un peu par hasard.
Vous dites que c'est un métier où il ne faut pas vieillir. Merci pour moi.
Non, mais vous n'êtes pas vieux, vous êtes né en 1960. Non, même pas en 1970. Non, mais je ne sais pas, c'est idiot, mais c'est un sentiment très fort qui m'est venu. La première fois que je suis entré dans la salle de rédaction de Paris Presse, je me suis dit c'est un métier dans lequel il ne faut pas vieillir. Je ne sais pas pourquoi.
Paris Presse, l'intransigeant où vous avez travaillé, vous avez aussi travaillé à l'Express. On va prendre la 4e République en 1957, au début de la fin. Vous expliquez que c'est une République de l'expansion, mais que beaucoup de mécontentements se sont accumulés. Et René Pleven, qui a été président du Conseil de cette 4e République et que vous citez, décrit la vie politique comme un combat de chèvres en mêlant leurs cornes sur une passerelle. D'un côté de la passerelle, il y a les communistes, 150 députés. De l'autre côté, il y a les gaullistes. Le général de Gaulle est maintenant en retrait, mais c'est un fantôme. Et il barre l'accès d'une partie de l'opinion. Et les partis de gouvernement se battent entre eux.
Oui, mais je pense que c'est un peu la caractéristique de la 4e République. Et d'ailleurs, c'est assez injuste, parce que la Constitution était telle qu'il ne pouvait pas y avoir de stabilité. La vie moyenne d'un gouvernement est de 7 mois. Mais cela étant, ça n'a pas empêché la 4e République de faire un travail assez remarquable. Elle a reconstruit le pays, elle l'a modernisé, elle a jeté les bases de la construction européenne. Effectivement, elle n'a absolument pas compris le problème de la décolonisation. Mais c'est facile aujourd'hui de comprendre le problème, ça n'était pas à l'époque.
Vous savez ce que disait le général de Gaulle, que vous citez aussi. On peut dire tout ce qu'on veut de ce régime, une politique qui ne fait pas rêver est condamnée.
Oui, ça c'est un mot que j'aime énormément du général de Gaulle. Je trouve ce mot absolument admirable.
Maintenant, on va entendre François Mitterrand, le speaker de l'époque. C'est pendant la crise ministérielle de juin 1957, dit d'ailleurs François Mitterrand. Vous ne le connaissiez pas à l'époque, vous vous souvenez néanmoins de son numéro de téléphone.
Oui, parce que je n'ai aucune mémoire des visages, je peux vous rencontrer dans la rue demain, je ne vous reconnaîtrai pas. Mais en revanche, j'ai beaucoup de mémoire pour les textes et pour les numéros de téléphone.
Alors le numéro de Mitterrand, c'était
Littré 3216.
C'était l'époque où il habitait
rue Guynemer, au
4 rue Guynemer, tout près du jardin du Luxembourg. Vous avez travaillé plus tard avec François Mitterrand. Alors on l'entend en mai 1957. Il faut expliquer aux auditeurs qu'il y a des partis charnières parmi les partis de gouvernement. Et que dans ces partis charnières, il y a l'UDSR, elle-même divisée en deux. Il y a Pleven, que je citais tout à l'heure. Il y a Mitterrand.
Est-ce que je peux vous dire que l'UDSS, ça veut dire Union démocratique et sociale de la résistance. Ça a été fondé à la libération et c'est tout de suite divisé en deux tendances. L'une animée par François Mitterrand, qui est pour une politique déjà très libérale en AOF, et pour René Pleven, compagnon du premier jour du général de Gaulle, mais qui est, disons, plus conservateur.
Alors, si nos auditeurs suivent, il faut qu'ils sachent que ce parti charnière est lui-même allié avec le RDA. Le RDA regroupe des artisans des indépendances africaines qui sont présents comme députés.
Dans Oufouet Bani.
Alors, nous sommes en juin 1957.
Vers 23h, tout d'abord, visite de M. Mitterrand et de M. Oufouet Boigny, représentant le groupe de l'UDSR-RDA.
Nous avons revu M. Bourges-Mounouri, qui nous avait fait l'honneur, M. Oufouet Boigny, ici même, et moi-même, de nous pressentir hier matin afin d'entrer dans son gouvernement. L'UDSR et le RDA se sont réunis depuis lors. Le problème posé à M. le Président du Conseil visait essentiellement ceux qui concernent les affaires africaines, aussi bien celles de l'Afrique noire, problème du Sahara, et enfin, problème de l'Algérie. Si l'on me permet de parler d'abord de moi-même, je dirais que l'UDSR m'a demandé d'obtenir de M. le Président du Conseil pressenti des garanties sur des réformes de structure en ce qui concerne l'Algérie. Cependant, en l'état actuel des choses, ces réformes de structure n'ayant pu être garanties, j'ai personnellement décliné ma participation. Cependant, l'UDSR a néanmoins insisté vivement auprès du président Oufouet Boigny pour que par sa présence au gouvernement et au-delà des crises ministérielles, sa présence signifie au sein du gouvernement de la France la permanence de la contribution de l'Afrique noire aux destinées de la communauté franco-africaine.
À 1h30 du matin, M. Oufouet Boigny nous déclarait simplement:
j'ai accepté de faire partie du gouvernement de M. Bourges-Mounouri comme ministre d'État.
À 3h cette nuit, M. Bourges-Mounouri, président du Conseil, a fait à notre micro la déclaration suivante.
Voilà, mon ministère est constitué. Nous sommes 14. Pas un de plus.
Et les auditeurs vont dire que le gouvernement de M. Bourges Monory, ça n'a pas été facile à constituer et que c'est un petit peu illisible. En revanche, Georges Atelgel, l'opinion a entendu ce qui a été dit ici de l'Algérie et l'opinion sait que l'Algérie, c'est un problème qui la concerne. Les jeunes vont en Algérie faire la guerre. Alors, sur l'Algérie, rédigeant votre histoire de la 4e République, vous avez appris beaucoup de choses que vous ne saviez pas à l'époque ou que vous ne vouliez pas savoir.
Je ne voulais pas savoir. En 1957, les préoccupations principales des Français sont leur niveau de vie et tout de suite après l'Algérie. Les Français ne conçoivent pas, dans leur immense majorité, que l'Algérie puisse être indépendante. Ils ont appris à l'école que l'Algérie était composée de départements français. Mais en même temps, ils sont de plus en plus nombreux chaque année, selon les sondages d'opinion publique, à préconiser des négociations avec les rebelles, c'est-à-dire le FLN. Et vous savez, l'Algérie envahit la France. Chaque fois qu'il y a dans un petit village l'enterrement d'un soldat mort pour la France en Algérie, si on peut dire, très souvent des manifestations éclatent dans le département, soit pour l'Algérie française, soit contre la guerre d'Algérie. Donc, oui, quand vous disiez que je ne voulais pas savoir, effectivement, j'avais beaucoup de mal à concevoir que l'armée française, qui pour moi était l'armée de la libération, l'armée de la liberté, que l'armée française puisse avoir commis des exactions. Or, il est évident qu'elle en avait commis. On ne peut pas dire que les exactions n'ont pas été légalisées, mais le gouvernement fermait les yeux. C'est un ministre, tel Bourgès Monnoury, qui était partisan d'une politique dure, comme Robert Lacoste, les admettait plus ou moins. D'autres ne les admettaient pas, mais ça se faisait.
Vous parlez longuement, dans un beau chapitre, d'une armée égarée.
Oui, c'est une armée qui est totalement égarée. Elle est perdue dans le temps, elle est perdue dans l'espace. Vous avez le code de l'obéissance militaire auquel elle obéit, date de la Troisième République, il n'a pas été modifié. Elle ne s'est pas remise de la défaite de 1940. À l'époque, elle était considérée comme l'armée la plus puissante et elle s'est effondrée à une vitesse incroyable. Elle ne s'en est pas remise. Elle ne s'est pas remise de la défaite en Indochine. Et depuis, elle a la conviction qu'elle a été trahie par le gouvernement. Les officiers et les soldats sont très mal payés. Ils se sentent un peu en dehors de la nation. Et il y avait une chose qui m'avait beaucoup intéressée. J'avais eu accès au rapport sur le moral de l'armée et au rapport de base, qui était d'une violence extraordinaire. Et puis après, j'ai eu accès aux rapports d'ensemble, les rapports tels qu'ils étaient transmis au pouvoir. Et j'ai vu que le pouvoir n'était absolument pas informé, parce que tout était lénifié pour dire au gouvernement que tout allait bien. Donc vous avez une armée qui est perdue et qui va trouver normal de peser sur la politique du gouvernement.
Il ne faut pas demander à l'armée de faire trop de métiers différents, dites-vous. C'est une leçon d'ailleurs qu'il faudrait entendre aujourd'hui.
Oui, parce que elle fait des métiers d'administrateur civil en Algérie. Elle fait des métiers aussi de professeur, d'école. On les accable de besoins divers et variés. Alors certains s'en occupent à merveille, d'autres trouvent que ce n'est pas leur métier. C'est une armée qui n'a pas sa place dans la nation telle qu'elle est.
Cependant, le 14 juillet 1957, Bourgès Monnoury, encore président du Conseil, voici qu'elle défile entourée de nombreux badauds parisiens.
Il n'est pas de 14 juillet sans revue. De l'Étoile à la Concorde, le défilé ouvert par les blindés a réuni cette année 15 000 hommes qu'ont pu suivre le président de la République et plus de 100 000 Parisiens pendant 1h40. Le thème du défilé de cette année, hommage aux combattants d'Algérie, faisait la plus belle part aux troupes d'Afrique du Nord. C'est ainsi que les Parisiens ont pu applaudir les unités purement musulmanes, groupe mobile et ARCA, groupe d'autodéfense constitué par les villages algériens. C'est ainsi également qu'après avoir applaudi les Saint-Cyriens, la foule a applaudi les parachutistes venus d'Afrique et salué leurs bérets. Béret bleu, paramétropolitain. Béret rouge, coloniaux. Béret vert, légion étrangère. Hey.
Le soleil brille, brille, brille. Hello, tu reviendras bientôt là-bas, dans ton village, au vert cottage, plein de chants d'oiseaux. Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, chez toi l'amour t'attend là-bas, fuyant le monde, veille une blonde qui brode en rêvant. Accroche-toi quand l'orage va gronder à l'espoir qui te fait marcher. Il faut lever la tête en chantant.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La dernière année de la 4e République, c'est un grand succès de cette année-là. La victoire aime les garçons, chante Annie Cordy. Georges Etel, j'ai quelque chose sur cette chanson, parce que vous avez l'oreille musicale.
Je n'ai aucune oreille musicale.
Pas d'oreille musicale.
Non, aucune. Ces deux infirmités, n'avoir aucune mémoire des visages et n'avoir aucune oreille musicale.
Mais quelle mémoire pour le reste? Non, mais votre histoire de la 4e République reparaît sous la forme de deux volumes aux éditions Bouquin. Les gouvernements morts tombent à l'automne. Le gouvernement Maurice Bourgès-Monory, vous vous souvenez peut-être des circonstances de sa constitution, est renversé et lui succède Félix Gaillard. Alors il faut rendre justice à Félix Gaillard. D'abord, c'est un de nos numéro un les plus jeunes.
Ah, c'est le plus jeune président du Conseil que l'on ait jamais eu. Je crois que Fabius l'a dépassé de quelques mois.
Oui, et Emmanuel Macron est beaucoup plus vieux, si on le compare à Félix Gaillard au moment de la prise de possession du pouvoir. C'est un individu intéressant. Hein.
C'est un individu remarquablement intelligent, qui n'a rien d'un enfant gâté, ce qu'il aurait pu être. Mais en même temps, c'est un personnage qui a des lacunes énormes. Un exemple, par exemple, lorsque en février, le 10 février, si mes souvenirs sont exacts, l'aviation française bombarde le village tunisien de Saïed Sidi Youssef, ce qui va...
Février 58,
ce qui va précipiter une crise internationale épouvantable et qui va amener l'internationalisation du conflit algérien. Il n'y attache aucune importance. D'abord, il croit que Saïed Sidi Youssef est en Algérie et c'est seulement deux jours après qu'il se rend compte que c'est un événement considérable.
Donc, et au motif de poursuivre des rebelles algériens, les circonstances sont complexes, on y a consacré une émission, il y a attaque sur le territoire tunisien par l'armée française. Il n'y attache pas d'importance, et pourtant il voit bien, vous avez prononcé le mot décisif, que la crise algérienne, lui il commence à parler de guerre d'Algérie d'ailleurs, que la guerre d'Algérie s'internationalise.
Oui, elle s'internationalise parce que les Américains, qui pendant longtemps ne s'en sont pas mêlés, ayant peur que l'indépendance ne se fasse au bénéfice de Moscou, les Américains se rendent compte qu'il leur faut intervenir en Algérie et que pour garder leur prestige, il leur faut intervenir contre la France. Or, c'est d'autant plus difficile pour la France que la France dépend totalement des finances américaines. Et Félix Gaillard, d'ailleurs, lui-même dira que ses rapports avec les Américains, que c'était atrocement dur. Et ça l'est.
On va entendre Félix Gaillard, qui n'a pas la voix d'un jeune homme de 39 ans.
Bien entendu, il vient immédiatement à mes lèvres une question brûlante d'actualité. C'est le problème de l'Algérie. Puis-je vous demander, Monsieur le Président, en fonction des récents événements, tant dans le domaine intérieur français, loi cadre, récente délibération à l'ONU, quelle est votre pensée, et plus exactement, si vous permettez, la politique de votre gouvernement sur cette préoccupation majeure de la France?
Sur l'Algérie, la politique de la France est très claire et très ferme, et elle le demeurera. Pourquoi ne cédons-nous pas, et ne céderons-nous pas, au FLN? C'est parce que un pays comme le nôtre ne peut pas consentir à donner à quelques milliers de combattants et parfois d'assassins le monopole de la représentation de 11 millions d'individus. Et nous démontrerons que ce n'est pas du tout, comme on le dit trop facilement, par un esprit colonialiste que nous voulons maintenir le drapeau français en Algérie, mais au contraire, pour établir dans ce pays, si communément, si intimement lié à la France depuis 150 ans, y établir des institutions qui sont conformes aux règles démocratiques.
Alors admettons que le FLN ne soit pas représentatif et ne puisse pas avoir le monopole de la représentation en Algérie. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, Georges Telget, pour tenter de réformer sur un modèle français les institutions algériennes avec la loi cadre?
Mais c'est infiniment trop tard. Et d'ailleurs, en écoutant, je pensais la situation en Algérie pour la France est perdu depuis les élections truquées de 1948.
Oui, parce qu'on avait réformé au lendemain de la guerre, mais on avait truqué le résultat des élections.
On a totalement truqué les élections, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus pour les nationalistes algériens qu'une seule possibilité, le recours à la violence. Ils savent que la France, lentement, ils savent que la France truque les élections qui, en principe, devaient permettre à tous les habitants de l'Algérie d'être sur un pied d'égalité. Donc, on ne peut pas ne pas être triste en écoutant Félix Gaillard, car on se rend compte à quel point son discours est totalement en dehors de la réalité.
Les dirigeants de la 4e République que vous avez rencontrés, dont vous avez recueilli souvent des archives personnelles, ils voulaient se justifier devant vous. Enfin, ils disaient, nous avons fait des choses. C'est pour ça qu'ils vous ouvraient d'ailleurs leur
non,
papier.
Non, ils étaient très heureux que je les interroge. Parce que à l'époque où j'ai commencé cette enquête, la 4e République était totalement discréditée. Donc ils étaient très heureux de pouvoir s'exprimer. Je n'avais pas d'opinion politique bien précise. On savait que j'avais une sorte de passion pour De Gaulle, j'avais été mazésisme, enfin, je n'avais jamais eu d'activité politique. J'étais de bonne foi, donc ils étaient très contents de me donner leurs archives et de me parler.
Gaillard vous a parlé ?
Non, Gaillard est un des seuls que je n'ai pas vu. Je ne sais pas pourquoi.
Le gouvernement Gaillard chute. Oui. Le 15 avril, un débat à l'Assemblée nationale est ouvert où vous dites que Jacques Duclos et Jean-Marie Le Pen, jeunes députés poujadistes, emploient exactement le même vocabulaire, condamnant le rôle du gouvernement américain dans le lâchage de la France. À partir du 20 avril 1958, la crise gouvernementale va entamer, je vous cite, son cursus rituel. Mais en fait, il s'agit d'une crise de régime. Finalement, c'est Pierre Flimelin, le maire de Strasbourg, qui est pressenti et désigné par le président de la République, René Coty.
Je viens de communiquer à Monsieur le président de la République le résultat des délibérations de mon parti. Le mouvement républicain populaire est prêt, dans les circonstances actuelles, à prendre ses responsabilités en participant à un gouvernement, pour peu que ce gouvernement ait des chances sérieuses d'efficacité et de durée. Son exigence fondamentale, je tiens à le répéter une fois de plus, c'est que le nouveau gouvernement s'engage à opérer dans les plus brefs délais une réforme profonde de nos institutions pour que l'État républicain devienne enfin capable de faire face au péril qui menace le pays.
Le péril qui menace le pays. Depuis un an, on parle de gouvernement de la dernière chance. Maurice Clavel, combat, 1957, notre dernière chance, c'est De Gaulle. Et la jeune journaliste, Georgette Elget, dans Paris Presse, l'intransigeant, en février, avant cette crise qu'on évoque, 58, dit, d'après ce que je sais, et non c'est long, le général de Gaulle s'apprêterait à rentrer de nouveau dans le jeu politique.
Non, vous savez, d'abord, je ne savais rien.
Vous ne saviez rien.
Donc je fais un papier qui n'avait absolument aucun intérêt, où il n'y avait aucune information. Et à ma stupeur, le rédacteur en chef de Paris Presse me dit « Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de démenti ?» J'en étais d'autant plus sûr qu'il n'y avait rien dans ce papier. Et je lui dis « Mais pourquoi me demandez-vous cela ?»« Mais parce que je n'ai rien aujourd'hui, je vais en faire la manchette. » Et Paris Presse parlait le 28 février 1958 avec en manchette « Prochaine rentrée politique du général de Gaulle, point d'interrogation. »
Enfin, cependant, mois de mars, mois d'avril, il n'y a pas de fumée sans feu.
Non, c'est-à-dire qu'il y avait un mouvement en profondeur en faveur de De Gaulle. Si vous voulez, il y avait une pétition qui avait été lancée pour le retour de De Gaulle, parfois dans un département, 5000 affiches étaient posées en une nuit pour le retour de De Gaulle. Or, ces affiches, le plus souvent, étaient payées par des militants gaullistes qui eux-mêmes les collaient. Donc, c'est un mouvement spontané. Mais Alexandre Sanguinetti, qui devait jouer un rôle important sous la Ve République, a très bien défini le rôle des gaullistes à l'époque. Nous étions 1000 et il fallait que nous fassions croire que nous étions 1 million. Effectivement.
Cependant, vous dites, je vais répondre à la question « Y a-t-il complot ?» Et en fait, la réponse, ce sont davantage de questions encore, parce qu'en histoire, il n'y a que des questions et peu de certitudes.
Et je dois beaucoup à François Bédard-Rivière, qui un jour où je me déplorais de ne pas arriver, en dépit de mon travail aux archives militaires qui avaient été ouvertes, de ne pas pouvoir arriver à compter le nombre des exactions commises par l'armée. François Bédard-Rivière m'a répondu. Mais en fait, le métier d'historien, ce n'est pas d'apporter des réponses, c'est de poser des questions.
Le 13 mai, Pflimlin doit prononcer son discours d'investiture au Palais Bourbon. Il est particulièrement détesté par les partisans de l'Algérie française. Et la crise se joue davantage à Alger encore qu'à Paris. Une manifestation que Paris n'a pas réussi à faire interdire par le général Salan, le responsable militaire numéro 1 à Alger, commence dans la ville blanche. Et c'est ainsi qu'elle est racontée, d'ailleurs, de manière assez placide et calme, par le journaliste Claude-Henri Salerne.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Vous savez, les événements qui secouent notre pays, tant dans la métropole qu'à Alger, le rôle du journal télévisé est de vous renseigner le plus possible en images. Nous avons d'abord à vous dire ce soir qu'au cours de ce journal, il est très possible que nous ayons un relais direct depuis l'hôtel Matignon, d'où vous parlerez en direct Monsieur Pflimlin, président du Conseil, pour une déclaration. En attendant, nous allons vous donner le film de la journée d'hier à Alger.
En tenue de parachutiste, le président de l'Association Générale des étudiants d'Alger, M. Lagaillarde, harangue la foule et l'invite à investir l'immeuble du gouvernement général. Ce seront dans quelques instants les scènes classiques de furie destructrice, les bureaux mis à sac, les archives lancées par les fenêtres. Cependant qu'au balcon, les orateurs incapables de se faire entendre diffusent les ordres par le tableau noir. Il est 19h30, une heure plus tard, c'était la constitution du comité de salut public et le télégramme comminatoire au président de la République.
Juste une question témoin que vous êtes, Georgette Elger. On est étonné du caractère placide des speakers. Et le général lui-même, il était très flegmatique.
Le général était d'un calme parfait. Il va faire communiquer le 15 mai, disant qu'il se tient prêt s'il peut être utile, mais il se tient soigneusement à l'abri, il reçoit tout le monde, il écoute tout le monde, il laisse croire, en aucun cas il ne veut revenir sous la pression des parachutistes, mais en même temps, il reçoit les envoyés d'Alger et il ne fait rien pour les dissuader, il ne dit rien. C'est un joueur d'échecs absolument exceptionnel.
Le témoin de ce jour, c'était Georgette Elger pour l'édition en 2 volumes complètement restructuré de son Histoire de la 4e République, c'est dans la collection Bouquins chez Lafond. L'émission était préparée par Frédéric Martin avec à la technique Paul Percheron et la réalisation Audrey Ripouille.